L'intérêt pour nous de ces retraites d'un mois, ou de 15 jours, mais d'un mois, c'est de pouvoir traiter des sujets comme on ne peut pas le faire d'habitude, dans des retraites d'une semaine ou même de 15 jours. Donc d'aborder des sujets un peu plus, peut-être plus profonds, plus subtils. Et si on ne prend pas ces opportunités, évidemment, alors on ne le fera jamais. Maintenant, évidemment, ils sont un peu plus, peut-être un petit peu plus subtils que ce qu'on utilise d'habitude, encore que, c'est pas sûr, mais donc pour essayer de préciser quand même certains points qu'il est peut-être difficile d'expliquer dans un autre contexte. Lorsqu'on essaye de décrire les choses les plus proches, les plus intimes, on a toujours l'impression que le langage devient problématique. C'est assez facile de décrire des choses de technique, de catégorie, de classe, ça c'est très facile, mais dès qu'on veut s'approcher de l'expérience la plus proche, la plus intime, à ce moment-là, eh bien le langage il est problématique parce qu'il n'est pas fait pour ça. Le langage il est fait pour cerner, pour séparer, pour diviser, et tout d'un coup on essaye là d'aborder quelque chose qui est différent. Donc on a un peu de peine avec le langage et c'est normal. Et dès qu'on est un peu attentif au langage, on se rend compte que nous avons des habitudes qui sont quand même assez problématiques. Donc si on veut se libérer du conditionnement, puisque c'est dans le fond le but du chemin spirituel dans le bouddhisme, se libérer de tout conditionnement, ben, il est évident que ça s'y demande plus qu'un léger réaménagement du paysage intérieur. On ne peut pas juste changer un petit peu les choses et puis espérer qu'on va avoir à ce moment-là un changement radical qui permet donc d'explorer cette liberté inconditionnée. Donc ça demande quand même de questionner des choses fondamentales pour nous. C'est bien là qu'est le défi dans le fond. Je vois déjà là, en utilisant le langage, une liberté inconditionnelle, etc., que déjà le langage, il amène déjà de la confusion. Quand on parle de sagesse ou de liberté, d'une certaine manière, ça n'a pas de sens. Parce que sagesse, la liberté, on en a fait des substantifs. Et sagesse et liberté, ça n'existe pas tout seul, ça n'existe pas si ce n'est pas vécu dans un champ de conscience. Il n'y a pas la sagesse ou la liberté. On pourrait parler de liberté évidemment au sens politique, mais ce n'est pas ce qu'on entend ici. Donc ces termes sagesse et liberté, on a déjà chosifié des choses qui ne sont pas des choses, qui ne peuvent être que vécues subjectivement. Vous voyez, donc même ces termes qu'on utilise toujours, la sagesse, ça revient dans tous les textes bouddhiques, la liberté, le conditionnement. Et quand on. Alors ça a l'air un peu anecdotique, on se dit oui, bon, c'est qu'une question de vocabulaire, mais n'empêche que dès qu'on a fait ça, on les a déjà mis à distance. On a créé une distance, et puis ensuite, eh bien, on va essayer de combler cette distance tout au long de notre pratique. Et on met des distances, puis ensuite on essaie d'être dans l'intimité. Donc liberté, sagesse, on a chosifié alors que ce n'est pas des choses. On pourrait parler d'être libre, d'être conditionné. Qu'est-ce que c'est que d'être libre? Qu'est-ce que c'est que d'être conditionné? Et là, on le situe immédiatement dans une expérience, non pas comme une chose. Donc si on explore qu'est-ce que c'est qu'être libre de tout conditionnement, on peut essayer d'explorer un peu ceci, mais il est quand même important de garder une certaine réserve. Si je cite le sutra de Vimalakirti, sutra du 2 au 3e siècle, voilà ce qu'il dit dans ce langage évidemment. Chosifiant, il dit la sagesse sans compassion et conditionnement, la sagesse sans compassion et conditionnement, la compassion sans sagesse et conditionnement. Donc il faut les deux, sagesse et compassion. Il faut ces qualités, ces manières d'être. Être sage et à la fois être compassionné. Mais moi j'ai envie de traduire ça un peu différemment pour ne pas rester dans ce langage de choses. Et aussi compassion, c'est un terme générique. Voilà comment on pourrait traduire ceci dans un langage peut-être plus immédiat. Donc être sage, si on n'est pas aussi concerné et responsable, ce n'est pas être libre. Être sage, si on n'est pas aussi concerné et responsable, ce n'est pas être libre. Être concerné et responsable, si on n'est pas sage, ce n'est pas être libre. Et ces deux aspects sont quand même importants parce que quand on s'engage dans une exploration un petit peu plus profonde, expérience méditative ou chemin spirituel, il y a des moments où on a l'impression que le monde perd de son aspect concret, les autres aussi, et il est important de se rendre compte qu'il ne faut pas oublier ce côté de partage avec les autres, ce qui se fait dans le développement des quatre Brahmaviharas, par exemple. Donc on ne peut pas oublier ce côté d'engagement. J'ai pris ces termes, être concerné et responsable, parce que compassion, c'est un peu général, mais concerné par les autres, par soi-même, et responsable aussi. Donc ces deux aspects, là on aborde plus spécifiquement peut-être le côté de la sagesse ou d'être sage, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie ou qu'on nie cet aspect d'être concerné et responsable. Donc ce cheminement, il se fait, pour être libre, il se fait dans le fond par l'absence de saisie. Quand il n'y a plus de saisie, si vous voulez, les trois feux sont des manières de saisir. Quand il n'y a plus de saisie à ce moment-là, eh bien on pourrait dire qu'on peut commencer à explorer ou qu'à ce moment-là, on est dans cette exploration de la liberté, d'être libre. Je vous donne un sutra. J'aime bien donner quand même des sutras pour qu'on situe un peu ces choses-là. Donc voilà ce que dit ce sutra. Il dit: pour ceux qui se tiennent au milieu du courant, quand une inondation périlleuse a surgi, pour ceux qui sont opprimés par la vieillesse et la mort, je vais te dire l'île. L'île, c'est le refuge, c'est la liberté. L'île, c'est où on a trouvé de quoi se protéger. Ne rien posséder, ne rien saisir. Simple, ne rien posséder, ne rien saisir. C'est l'île sans rien de plus. Ces deux qualités, deux manières d'être, ne rien posséder, ne rien saisir. C'est l'île sans rien de plus, je l'appelle Nibbana, l'extinction de la vieillesse et de la mort. On a ici, on cerne dans des sutras comme ceci, exactement ce qui est en jeu dans notre pratique, c'est de ne pas saisir. On l'a déjà répété, évidemment, à de nombreuses reprises, ne pas saisir. Mais hein, qu'est-ce que ça veut dire ne pas saisir? M'est arrivé d'être assez frustré en entendant des exposés. Justement, on disait ne pas saisir, ne pas s'identifier. Je suis d'accord, il faudrait définir ce qu'on veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas saisir? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas s'identifier? Faut pas s'identifier, d'accord, faut pas s'identifier, mais ça veut dire quoi? Ne pas saisir. C'est pas évident. Ne pas saisir avec les mains, avec les dents, ça c'est simple. On ouvre les mains, on ouvre la bouche, mais là, de quoi est-ce qu'on parle? On ne parle évidemment pas ni des mains ni de la bouche, on parle de l'esprit. Mais l'esprit, ce n'est pas un muscle, bon, il ne se tend pas. Comment est-ce qu'il saisit l'esprit? On peut quand même employer une sorte d'analogie, c'est que l'esprit, quand il saisit, il se contracte. Il se fige, il se ferme, il s'enferme, il enferme quelque chose. L'esprit, c'est ce qui limite la saisie, c'est ce qui limite quelque chose. Il limite dans le contexte de tout le reste. Et comment est-ce qu'il fait ceci, l'esprit? Par le concept, par le langage. Le concept, le langage, c'est la manière que nous avons d'isoler les différents phénomènes. Donc toute la saisie est basée sur le concept et le langage. On parle dans la pratique constamment de ne pas s'attacher aux mots, d'essayer d'être derrière les mots, d'être dans l'expérience elle-même. Donc quand le mot chosifie l'expérience, il exclut la présence à soi. Il met une distance. Et à ce moment-là, on est concerné par cette expérience chosifiée par le mot. Donc dès qu'il y a cette distance qui est faite par le concept, par le langage, eh bien il n'y a plus présence à soi. Alors, bien sûr, quelquefois ça fluctue, c'est pas, voilà, il y a le mot et je suis juste dans le mot. Quelquefois notre expérience fluctue, on est un petit peu plus présent, le mot est un peu moins important, puis le mot revient plus important. C'est pas quelque chose de figé. Donc le mot, j'ai utilisé liberté, la compassion, comment ces mots figent quelque chose? La liberté, c'est stable, c'est dans une boîte, la liberté. La compassion aussi, mais être libre, être concerné, ça, on se rend compte que ça change d'instant en instant. C'est pas, voilà, je suis concerné, ben non, ça va changer d'instant en instant. Mais la compassion, c'est un terme qui a figé l'expérience. Pour ceci que j'aime bien employer, c'est être concerné ici, être responsable. Et ça, on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas figé, quelque chose qu'on peut vivre. Et le concept, le langage, le mot, hein, fige quelque chose, mais il le fige aussi dans une sorte de permanence. Le mot, quel qu'il soit d'ailleurs, il est stable, il ne change pas. Qu'on appelle, je ne sais pas, on parle d'une fleur ou quelque chose, ben, ça ne change pas, fleur, ça ne change pas. Alors que si on voyait une fleur particulière, elle change constamment. Mais le terme, lui, reste la même chose. Donc, bien prendre conscience que les mots, les concepts sont stables. Et c'est dans le fond, pour nous, leur intérêt. C'est peut-être ce qui fait que nous nous y attachons, parce qu'ils sont stables. Et dans un monde où tout change, eh bien, il n'est pas dit qu'on soit à la hauteur de ce côté éphémère, et à ce moment-là, pour saisir quelque chose, pour se rassurer ou je ne sais quoi, à ce moment-là, on s'attache à nommer les choses pour les stabiliser, nommer les expériences, pour avoir l'impression d'être dans quelque chose de stable, qui ne change pas, qui est quelque chose, voilà, de sûr. Mais cette chose stable et sûre, c'est des choses abstraites, c'est pas la vie. De cette manière-là, on est coupé de la vie, on est en abstraction de la vie et pas pleinement en vie. Cette sécurisation, si vous voulez, elle a un coût, elle a le coût, elle nous coûte la vie. Je me souviens d'un poète qui disait, le besoin de la durée nous dérobe l'existence. Ce besoin des choses qui durent nous dérobe l'existence. À ce moment-là, on n'est plus que des entités abstraites. Donc un des éléments importants qui est lié au langage, au concept, c'est justement la notion de temporalité. Le langage, les mots, dans le fond, ils ne sont pas situés dans le temps. Fleur, j'ai dit, ben, voilà, ça ne change pas dans le temps. Ce n'est pas fleur d'hier, fleur d'aujourd'hui, c'est fleur, d'une manière générale. Donc il est hors de ce qui change. Donc il voile la temporalité. Je donne une citation de Simone Weil. J'ai plusieurs citations parce que bon, les gens écrivent de manière tellement belle et tellement précise que. Voilà, j'aime mieux utiliser leur manière de s'exprimer. Voilà ce que dit Simone Weil, hein, dans un petit texte qui s'appelle La pesanteur et la grâce, qui est un très beau texte. Voilà, elle dit, le temps à proprement parler n'existe pas. Et pourtant, C'est à cela que nous sommes soumis. Nous sommes réellement attachés par des chaînes irréelles. Le temps irréel voile toute chose et nous-mêmes d'irréalité. Extrêmement clair. Et quand elle dit « nous sommes réellement attachés » parce que l'expérience que nous faisons, dans cette confusion que nous avons de nous attacher à la temporalité, au langage, etc., eh bien on se sent réellement lié, attaché, conditionné. J'ai appelé un autre poète ici, Yves Bonnefoy, dans un très beau texte aussi qui s'appelle « Les tombeaux de Ravenne ». Voilà ce qu'il dit. Il dit « parce qu'on meurt dans ce monde, et pour nier le destin, l'homme a bâti de concepts cette demeure logique, où les seuls principes qui vaillent sont de permanence et d'identité. » Pour nier ce côté mortel, pour nier cet aspect-là, ben, l'homme a bâti, l'être humain a bâti de concepts, cette demeure logique où tout a l'air bien organisé, où les seuls principes qui vaillent sont de permanence et d'identité. On a vraiment complètement figé le monde pour, ce qu'il dit, nier le destin, ce destin éphémère qui est le nôtre. J'aurais pu citer beaucoup de poètes parce qu'ils se sont évidemment posé des questions sur le langage. Ils l'utilisent, c'est leur monde. Et en se posant des questions, ils se rendent bien compte de ce que fait le langage. Et des fois, ces poètes essayent de le dépasser par le langage même. C'est là que ce sont des poètes. Mais ils perçoivent très bien ce qu'il y a de problématique. Donc cette manière de cacher l'éphémère hein, par le langage, en créant quelque chose de cohérent, notre monde de la connaissance. Donc le langage, il ramène toujours à du connu. Il peut ramener qu'à du connu, puisque le langage, c'est des mots qu'on connaît, donc toute expérience, tout ce qu'on voit, etc., on le ramène à du connu. On sait bien que si on ne connaît pas quelque chose, peut-être que vous avez fait l'expérience d'être, je ne sais pas, dans une forêt, ou par une fleur ou quelque chose, ou un oiseau, et puis quelqu'un, vous demandez le nom, on vous donne le nom, ah d'accord, c'est bon. On est satisfait, parce que voilà, on pourra dire, j'ai vu une fleur, truc, ou un champignon, chose, ou bien, voilà, ça nous suffit. Ça nous suffit, parce qu'à ce moment-là, c'est utilitaire. Si on doit retrouver une fleur comme ça, on sait où la trouver, ou tel et tel champignon. Donc, dès qu'on a mis le nom, dans le fond, eh bien, on ne voit plus vraiment la chose. On ne voit plus vraiment ici la fleur. Le mot est venu cacher ceci. Donc, elle est connue, cette fleur-là. Maintenant, si on repasse, ah ben voilà, c'est telle et telle fleur. Donc, on reste dans un monde où il n'y a jamais rien à découvrir. Parce que tout est ramené à du connu. Alors des fois, il devient ennuyeux parce qu'il n'y a rien à découvrir. Alors Mahasi Sayadaw, donc que j'aime bien citer parce qu'il est très structuré dans sa manière de guider la pratique, il parle de vérité ultime et de vérité conventionnelle. La vérité ultime, c'est celle qui dépasse les concepts et la vérité conventionnelle, c'est celle qu'on partage, qui nous permet de donner le nom juste de cette fleur. Il dit, afin de développer une vraie sagesse intuitive, donc vipassana, on doit méditer sur des phénomènes ultimes et non sur des concepts. Donc notre lieu de méditation, notre champ d'exploration, c'est les vécus avant de les cerner par le langage. Donc des expériences qui sont éprouvées dans l'immédiateté, avant qu'on les connaisse dans le fond. Mais cet inconnu qui est là à chaque instant, ce n'est pas un manque. On pourrait dire, oh, l'inconnu ça fait peur, mais ce n'est pas un manque. Au contraire, c'est une ouverture. Donc pour lui, vérité ultime, c'est ce qui ne dépend pas de quelque chose d'autre. Donc pas du langage, pas des concepts. On voit bien que, évidemment, quand on a nommé quelque chose, j'ai donné le nom de cette fleur, Eh bien, ça dépend du langage. Une personne qui parle une autre langue lui donnera un autre nom. Donc, ce nom que j'ai mis sur cette fleur, ça, c'est complètement dépendant. Mais l'expérience elle-même, elle ne dépend pas de ceci. Donc, on peut se demander, mais comment explorer ceci? Ça semble intéressant, il faut passer par là, ça semble être le chemin spirituel, donc comment le faire? À nouveau, on trouve dans les sutras les indications pour faire ceci, c'est aussi ce qu'on transmet. Et ici, voilà, je prends ce sutra qui dit: laisse s'estomper ce qui appartient au passé, qu'il n'y ait rien après. Si vous ne saisissez rien au milieu, vous vivrez en paix, c'est-à-dire dans une manière d'être libre. Laisse s'estomper ce qui appartient au passé. C'est plus vite dit que fait. On vous le répète, nous, dans les entretiens, mais bon, on sait bien que ce n'est pas si simple, parce que pour nous, ce n'est pas si simple. Laisse s'estomper le passé. Ouais, il est quand même quelquefois un petit peu, où on s'y attache, on a de la peine à laisser passer. Qu'il n'y ait rien après, donc aucune anticipation, aucun projet particulier. Si vous ne saisissez rien au milieu, ça c'est le langage, quand il y a cette expérience-là, on ne la saisit pas. Si vous ne saisissez rien au milieu, vous vivrez en paix. Ça sera justement cette manière d'être libre. Donc, vous voyez, c'est quatre lignes d'indications pratiques. Ce n'est pas des choses compliquées. Si je donne le contexte un peu pour essayer d'expliquer pourquoi il s'agit de faire ceci. Mais du point de vue des indications pratiques, c'est très bref, c'est très simple. Donc on peut revenir au Satipatthana Sutra qui donne quelques indications, peut-être intermédiaires pour aborder ceci. Nous avons vu que Sati, donc l'attention peut être, présence attentive peut être compris à des niveaux différents. Il y a Sati dans le sens d'une attention portée sur quelque chose. Je fais attention, voilà, en sortant du temple ici, je fais attention en rentrant dans le hall de la maison pour pas laisser trop de traces. C'est une attention, je fais attention à quelque chose, ça c'est un des aspects. L'aspect qu'on développe aussi pour calmer l'esprit, je suis attentif à la respiration, attentif aux sensations dans les mains, attentif aux sensations corporelles. C'est l'attention donc qui porte sur quelque chose, qui est dirigée. On a vu donc sur les expériences sensorielles, etc. Et puis il y a le deuxième aspect qui est la présence à soi, qui est quelque chose qui n'est pas dirigé comme ceci, mais qui est conscient de l'expérience elle-même. Pas de ce sur quoi porte l'attention, mais de l'expérience elle-même. Donc le Satipatthana, si on prend les termes, donc décortique, Smriti Upasana, ben ça veut dire Upa, c'est ensemble avec, Estha, c'est demeurer, résider. Donc demeurer à proximité de l'expérience, demeurer avec l'expérience. Voilà ce que veut dire notre pratique de sati, si vous voulez, c'est demeurer avec l'expérience. Non pas à distance, mais être cette expérience. Et pour être cette expérience, comme je l'ai mentionné avant, s'il y a le langage et autre qui vient, alors ça crée une distance entre, si vous voulez, la conscience, elle est le contenu de l'expérience. Ça crée une distance, à ce moment-là, on ne peut pas être être avec, dans cette intimité. Dès qu'on nomme constamment les expériences, c'est comme si on vivait de souvenirs, parce qu'on se souvient, c'est une mémoire qui amène le nom, etc. C'est comme si on vivait déjà au passé. On vit notre existence au passé parce que c'est rassurant, parce que c'est connu, au lieu de la découvrir dans l'instant. Et à nouveau, ce n'est pas parce que cet inconnu qui se révélerait à chaque instant serait quelque chose de bizarre, comme en général on traite de l'inconnu. Non, c'est simplement, avant d'être codifié, c'est simplement quelque chose de beaucoup plus ouvert. Alors on peut explorer ceci, on a déjà parlé du Baya Sutra et autres, dans la vision, il n'y a que la vision, dans l'audition, que l'audition, etc. Cette formulation qu'on comprend bien, ce n'est pas très compliqué à comprendre, ça ne veut pas dire que c'est si simple, qu'on n'est pas toujours dans cette intimité, ce n'est pas si simple, mais on comprend bien. Dans l'audition, on ne crée pas, on reste dans cette expérience-là, dans toute sa richesse, sans s'attacher à l'interprétation, au mot qu'on met dessus. Puis on met le mot quelquefois, puis on revient, mais d'accord, le mot, c'est, je ne sais pas, le bruit du vent ou du chien, et puis on revient, mais qu'est-ce que c'est que ce son que j'entends, cette audition elle-même, avant de venir voiler l'expérience par ce concept, chien ou vent, etc. Donc ça, on le comprend bien. Mais ce qui est plus problématique, ce n'est pas les expériences sensorielles, c'est l'expérience de la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Citer un autre sutra ici, qui n'est pas le Baya, qui est le Malunkyaputta. Et voilà, c'est assez touchant, ce Malunkya. Ben, là, il est vieux, on dit dans le sutra, il est vieux, il va voir le Bouddha, puis il dit, bon, je suis quand même assez âgé, donc vous ne pouvez pas me donner une pratique simple pour quelqu'un qui est âgé, parce que voilà, j'ai plus beaucoup d'énergie, j'ai plus beaucoup de temps. Alors le Bouddha, il dit, mais même à des jeunes moines, je donnerai les mêmes indications. Donc ce n'est pas question d'âge. Donc il va donner des indications assez simples. Et il donne la même chose que dans le Baya Sutra, il dit, en ce qui concerne la vue, il n'y aura que la vision, en ce qui concerne l'audition, il n'y aura que l'audition. Il cite les cinq expériences sensorielles. Et il dit, en ce qui concerne, alors là j'ai pris le penser, il n'y a que le penser, on va voir sur ce terme-là, donc aussi pour l'expérience mentale, ben de la même manière, il reste juste avec. Il dit, c'est ainsi que tu dois pratiquer. Quand il n'y a plus de toi là-bas, tu n'es ni ici, ni là-bas, ni entre les deux, c'est cela, juste cela, la fin du stress, c'est-à-dire la fin du conditionnement. À nouveau, c'est simple. Mais c'est important que ça soit simple dans la formulation, parce que si c'était très compliqué, on dirait, mais est-ce que j'ai bien compris là? Bon, on comprend bien ce qui est dit. Alors, bon, dans le penser, c'est un peu compliqué. J'ai regardé, on pourrait dire l'intellection. L'intellection, c'est l'activité de l'intellect. Voilà. On pourrait dire dans l'intellection, il n'y a que l'intellection. Pour essayer de rester dans vision, audition, etc. Mais on comprend bien ce dont il s'agit. Dans le fond, c'est quel est l'équivalent dans la pensée, le penser du nom chien sur le son qui est entendu. On a le son et le concept, mais là, dans la pensée, comment est-ce qu'on peut rester juste dans la pensée? Qu'est-ce qu'on rajoute dont il s'agirait de se défaire dans la pensée? Moi, je me suis souvent demandé ceci, encore je me le demande depuis longtemps, et j'ai l'impression que souvent on cite le sutra, le Baya Sutra, etc., sans s'attacher à cet aspect-là. Et ça me semble quand même intéressant. Donc, qu'est-ce qui est là en jeu qui va nous permettre d'avoir cette intimité, cette présence lorsqu'il y a des pensées? Où est la confusion? Bon, moi, j'ai une petite idée là-dessus que je vais vous proposer, mais voilà, c'est pas une idée canonique, c'est la manière dont j'essaie de comprendre ce qui pourrait bien, de quoi il pourrait s'agir ici. J'ai pris deux pensées qui me semblent intéressantes, avant et après. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que si je pense avant, j'ai l'impression que ça me donne accès à quelque chose qui est hors de l'instant, avant, après. Après, on peut aller il y a une année, etc. Mais j'aimais bien rester proche de l'expérience avant et après. J'ai l'impression que avant, mais vraiment, ça me donne accès à quelque chose ici, et après, ça me donne quelque chose ici. Donc, je crois ici ce que la pensée dit, avant et après. Mais si je reviens à la pensée elle-même, à son surgissement, je me rends compte que avant surgit maintenant. Cette pensée, avant, elle surgit là. Elle n'a pas le pouvoir de me donner accès à quelque chose d'autre. Il y a juste avant, là, dans cet instant. Avant, de même que pour après, il n'y a pas. Ça me donne accès à rien d'autre. C'est juste une pensée qui surgit avant, après, bleu, rouge, etc. C'est quand même, ça surgit dans l'instant. Et là, je me rends compte ce que j'enlève. Si je veux éliminer une confusion qu'on avait avec le son et puis l'interprétation, c'est dans le fond de croire que cette pensée, elle me donne accès à quelque chose d'autre qu'elle-même. Avant me donne accès à un autre moment, après me donne accès à un autre moment. Alors que dans le fond, non, ça me donne accès à rien du tout. Et cette confusion-là, elle est fondamentale. Cette confusion est très importante. Alors, essayez d'explorer ceci, mais sans vous prendre la tête. Quand moi je regarde, quelquefois c'est simple, c'est évident. Quelquefois, ben, j'ai l'impression que oui, ça me donne accès à quelque chose. Mais vous pouvez jouer avec ça. Que ces pensées-là, elles sont juste, rien ne peut sortir de l'instant. Et ces pensées qui semblent nous donner l'illusion de pouvoir sortir de l'instant, elles amènent une grande confusion. Alors, évidemment, si vous pensez aux prochaines vacances ou aux dernières vacances, c'est le même processus de croire que ça nous donne accès à un autre moment, à un autre temps. Et le fait de dire « c'est qu'une pensée », ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, le raisonnement. Le raisonnement, il ne change rien. C'est qu'une pensée, ouais, mais c'était quand même sympa, etc. Il faut vraiment le voir. Ça, c'est le travail de Vipassana. Et quand on partage dans les groupes et autres, ben souvent ils disent oui, je sais. Je sais que c'est du souvenir, je sais que c'est ceci, je sais que c'est cela. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est la raison qui vient essayer de mêler son grain de sel et qui est finalement un peu d'importance ici. Mais au moment où on le voit, on l'éprouve. J'utilise « voix » ici, puisque Vipassana, c'est tiré du terme « voir ». Au moment où on voit vraiment que ceci ne donne accès à rien d'autre que dans cet instant, cette formulation, à ce moment-là, on se libère. Là, on découvre une manière d'être beaucoup plus libre. Parce que dans cette instantanéité, il y a une immense légèreté. Il n'y a pas le poids du passé, ni le poids des responsabilités futures. À nouveau, ici, on est dans une exploration fine. Pour ça que j'ai dit au début qu'il faut aussi l'allier par moment au fait d'être concerné et responsable. Donc, essayez de jouer avec ça, de voir vraiment qu'une pensée n'est qu'une pensée, qu'elle est son tel, quel que soit son contenu. Ça, c'est immensément libérateur puisque ces pensées nous enferment. Sans les pensées de toutes choses, on ne serait pas conditionné comme on l'est. On ne souffrirait pas comme on souffre. Peut-être que c'est ce point-là, lorsqu'on croit que la pensée avant et après nous donne accès à quelque chose d'autre, à un autre moment, C'est peut-être exactement là que se situe, dans le fond, la confusion qui fait qu'on est conditionné dans le samsara. Ce processus-là. Parce que ça sera la même chose dans je suis nul ou je suis extraordinaire. Pas l'explorer ici, mais ça sera la même réalité qu'on donne à cette pensée. Alors que cette pensée, elle ne dit rien à l'extérieur d'elle-même. Elle ne donne rien à l'extérieur d'elle-même. Quand je dis je suis nul ou je suis extraordinaire, mais ça ne me change pas du tout. Mais rien. Je peux le répéter, je suis extraordinaire, bon, ça ne change pas grand-chose. Ou je suis nul, ça ne change rien du tout. Mais si j'y crois, ça va évidemment m'alourdir, ça va être problématique. Donc, d'explorer à ce niveau-là, c'est un niveau très subtil, mais il me semble quand même que c'est important de pouvoir aussi explorer ceci. Et, comme je vous le dis, pour moi, par moment c'est clair, par moment c'est pas clair. Par moment je me dis, mais non, c'est pas possible, avant, après, c'est là, c'est... Et puis par moment c'est clair, et là je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc pour vous aussi, par moment ça peut être clair, et par moment, trop compliqué, vous revenez à quelque chose de plus simple, zone d'ancrage ou autre. Mais sans cette... Sans ce questionnement, parfois, de nos habitudes, à ce moment-là, c'est difficile de dépasser le conditionnement dans lequel on est. Et à un moment donné, on doit bien briser quelque chose pour que quelque chose d'autre s'ouvre. Et on ne peut pas juste améliorer un petit peu quelques pensées plus sophistiquées, etc. La voix du milieu, ça ne va rien changer. On pourra juste parler compliqué si on veut, mais alors ça ne change rien du tout. Mais si on peut déjà percevoir cette qualité de la pensée qui reste que la pensée, qui n'est pas quelque chose qui nous donne accès à autre chose, ben ça on explore déjà un espace de liberté. Je vais reparler de quelque chose que j'avais évoqué, un peu dans le même ordre d'idée, mais si vous pouvez jouer avec. J'avais parlé de Schrödinger, si vous vous souvenez, ce prix Nobel de physique quantique, qui disait que le monde ne préexiste pas à la perception qu'on en a. Le monde y surgit au même moment où on le perçoit. Pourquoi ? Parce que le monde est impermanent et il doit surgir à chaque instant, comme nous d'ailleurs. Donc il y a ce surgissement synchronisé, si vous voulez, à chaque instant, qui fait qu'il y a la perception du monde qui est le monde tel qu'il est en cet instant, avec ses molécules, voilà, toute sa richesse physique, et puis nous aussi. Donc on surgit au même moment. Mais vous voyez, si on pense que le monde existe avant, que nous nous baladons dans quelque chose de complètement stable, on a aussi complètement figé quelque chose. On a quelque chose de figé, et puis après, c'est une pseudo-sécurité, mais qui enlève la vie. Si on peut s'imaginer, mais quelquefois jouer avec, hein, c'est pas, ça, il ne suffit pas de penser chaque minute, oui, mais alors le monde, il ne préexiste pas, il est là. Il ne faut pas vous prendre la tête. Mais je crois qu'un des éléments que j'avais décrit l'autre jour, c'est déjà de vous rendre compte que la vision, elle se passe là où vous êtes. Alors, elle se passe dans la vision, si on reprend le sutra. Alors là, là où on est, c'est une manière de parler, mais la vision, elle est dans la vision, donc elle n'est pas devant. Et si elle est devant, elle est stable. Si là, j'ai l'impression que, voilà, ça c'est la vision et que je tourne ma tête, ben ça existe constamment. Mais si je me rends compte de cette expérience-là, celle-ci, à ce moment-là, à chaque instant, il n'y a que ce qu'il y a, la vision. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a là un... Je ne fixe pas cette expérience-là, même sans la nommer, avec le temple, par exemple, qui semble complètement stable. Il est stable, il ne faut pas avoir peur, mais quand même, quand on tourne la tête, l'expérience visuelle, c'est ça qui nous intéresse. C'est notre manière d'être au monde, c'est là que se trouve la liberté, ou le fait d'être libre, puisque je veux faire un sort à ces termes. Donc jouer avec ça, je ne sais pas vous dire, faut voir comme ceci, voir comme cela, mais si on reste avec nos certitudes et la certitude que le monde il est là, il est stable, on se balade dedans, ben, ça va être difficile de découvrir quelque chose de neuf. Mais si on dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Je pensais à un exemple, parce que on est dans un univers assez statique en général, où voilà, j'allais dire un univers à trois dimensions, voilà, gauche, droite, haut, bas, puis voilà. Et si je donnais un rendez-vous à une personne, j'ai pris la rue Vaugirard à Paris parce qu'elle est tellement longue qu'il vaut mieux donner le numéro, je crois qu'elle traverse tout Paris. Donc si je donnais un rendez-vous au 164 de la rue Vaugirard, je ne sais pas où il est, j'espère que ça touche personne, mais 164 rue Vaugirard, voilà, 164 rue Vaugirard, on a déjà une indication, je vous dis au troisième étage, voilà, porte à droite. On a rendez-vous là-bas. C'est cool. On se trouve. Et vous me direz à quelle heure? Il manque la dimension du temps. Chaque expérience, elle existe à un moment précis. Et ça, en général, on l'oublie. On a l'impression que cette temporalité, c'est quelque chose qui n'a pas cours. Mais c'est essentiel. Cette temporalité, elle est là à chaque instant. Si on se donne rendez-vous dans le temple ici de Tara, hein, ben, je ne sais pas, à 10h moins qu'un, ben, c'est cette expérience-là qu'on aura du temple à 10h moins qu'un, puis ça va changer d'instant en instant. Mais à 10h moins qu'un, le temple, il n'est pas la même chose quand vous venez à 7h30 le matin. Donc ces notions de temporalité qu'on oublie, c'est... Hein, c'est quelque chose qui nous alourdit immensément. Par exemple, j'ai fait quelque chose de pas bien. Ça arrive. Hein. Et puis, si je ne suis pas dans cette notion de temporalité, c'est comme si je le faisais maintenant, mais si j'ai fait quelque chose de pas bien, c'était 1930, non, un peu plus tard, mais voilà. À ce moment-là, eh bien, voilà, ce moment, etc. Ben oui, ben... Charles, à ce moment-là, ce n'est pas le Charles de maintenant. Il y a une continuité, etc. Mais autrement, j'ai l'impression que c'est tout le même. Cette temporalité, elle permet justement de détruire cette espèce de solidité qui fait que finalement, on a cet immense fardeau. Ce n'est pas parce qu'on va se déresponsabiliser, mais on n'est pas là toujours avec cette espèce de... Voilà, comme si moi, je devais exister toutes les années en même temps. C'est compliqué. Juste cet instant-là, donc cette dimension de la temporalité, quand quelque chose se passe, pour nous, c'est immensément enrichissant. Voilà, donc jouer avec ces choses. À nouveau, c'est pour ouvrir des possibilités, c'est pas il faut faire comme ceci, prenez-vous pas la tête, mais par moments, essayez juste. Il y a des moments où on se rend compte qu'on est disponible, d'autres pas. Quand vous êtes disponible, jouez un petit peu avec ceci. Voilà, je voudrais finir par une citation de Maurice Blanchot. Bon, lui, il sait bien écrire. Bon, j'ai un peu abrégé, mais voilà ce qu'il dit. Il dit, la présence, c'est le sacré. Cela même qui n'offre nul point d'appui, ni d'arrêt. La terreur de l'immédiat qui fait échec à toute saisie. Travaillez pour nous. Hein. Donc voilà, c'est cette manière de parler du sacré. Donc la présence, c'est le sacré. C'est la même qui n'offre nul point d'appui et ni d'arrêt. On ne peut pas se reposer. La terreur de l'immédiat, il faudrait lui demander pourquoi il a dit terreur, bon, qui fait échec à toute saisie. C'est ça. Dans l'immédiat, cet immédiat qu'on ne peut jamais saisir. Voilà, donc pour donner une citation qui peut être inspirante. Voilà, donc explorer à nouveau de manière légère, sans vous prendre la tête. Mais il y a des moments où peut-être qu'on peut questionner un peu ces manières habituelles de faire l'expérience pour découvrir peut-être quelque chose de nouveau. Je crois que dans notre méditation, quand il y a des intuitions et quelque chose comme ça qui surgit, c'est bien quelque chose de nouveau.